Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde. Aujourd'hui, édition du 1er mai 2017. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Jean-Roger Bion. Pour commencer les titres.
Au Mali, la force Barkhane annonce avoir tué ou capturé une vingtaine de djihadistes près de la frontière burkinabé.
Au Gabon, les travailleurs gabonais disent n'avoir pas le cœur à la fête en ce 1er mai, selon le leader syndical Fridolin de Messa.
Au Nigeria, Mouhamadou Sanusi II, émir de Kano et éminent leader musulman du pays, fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds.
Le président Donald Trump intensifie ses contacts avec les alliés asiatiques des États-Unis en rapport avec le dossier nord-coréen.
Au Venezuela, l'opposition va défiler de nouveau contre le président Nicolas Maduro lors de cette journée de fête du travail.
Et ne manquez pas le reportage de Nicolas Pino, notre envoyé spécial au Tchad, notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au Mali, la force Barkhane annonce avoir tué ou capturé une vingtaine de djihadistes. Des djihadistes qui se cachaient dans une forêt entre le Mali et le Burkina Faso. Ces derniers sont aussi des combattants de la nouvelle alliance que dirige le terroriste malien Yad Agali, nous dit de Bamako notre correspondant Kassim Traoré.
Depuis le samedi 29 avril 2017, la force Barkhane est engagée dans une opération qui a permis de neutraliser près d'une vingtaine de terroristes dans la forêt de Folessari, à proximité de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Ils ont tué ou capturé, a déclaré le porte-parole de l'état-major français, dans la forêt de Folessari, à la frontière Mali-Burkina. Une forêt réputée être le lieu de repos des combattants du djihadiste burkinabé Ibrahim Malam Diko, qui est aussi membre de la nouvelle alliance terroriste que dirige le Malien Yad Agali. C'est pour cela que l'opération a été menée à la fois par des frappes aériennes, mais au sol par des combattants maliens et burkinabés. Selon plusieurs sources, les frappes ciblées ont commencé à 5h du matin. Barkhane a effectué plusieurs frappes aériennes ciblant les djihadistes tout au long de la frontière jusqu'au Burkina Faso. Au même moment que cette opération se déroulait, les soldats maliens ont renforcé leur position dans les cercles de Nara et Banamba, où des véhicules de terroristes avaient été aperçus par des populations qui ont alerté les autorités maliennes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les travailleurs gabonais n'ont pas le cœur à la fête en ce 1er mai, c'est du moins ce qu'a expliqué à Timothée Donangmaï Fridolin Ne Messa, président de l'Union des syndicats de l'administration publique, parapublique et privée du Gabon, qui parle d'un contexte de crise.
Crise caractérisée par la contestation de la dernière élection, avec tout ce qui a suivi, et la tension sociale caractérisée par la crise économique qui frappe durement notre pays et qui a pour conséquence les licenciements abusifs et couronné le tout par une augmentation de la vie. Donc la vie devient de plus en plus chère avec l'introduction des nouveaux impôts, notamment la contribution spéciale de solidarité.
Qu'est-ce que vous attendez des autorités?
Bon, alors le manifeste qu'on va lire, on a la chance d'avoir le président en face de nous. Nous avons présenté notre amertume par rapport à ces licenciements abusifs, notamment qui se trouvent dans le secteur pétrolier, dans le secteur du bois, dans le secteur du BTP, où des milliers de travailleurs sont licenciés sans que le gouvernement trouve mot à dire. Donc on va présenter cette situation-là de désolation des travailleurs gabonais, notre mécontentement, et nous allons également dire au chef de l'État de faire quelque chose pour que les travailleurs gabonais puissent retrouver le sourire dans les jours qui suivent.
Fridolin Ne Messa, président de l'Union des syndicats de l'administration publique et parapublique et aussi privée du Gabon.
Au Nigeria, l'un des dirigeants musulmans les plus importants du pays, l'émir de Kano, Mouhamadou Sanusi II, fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds. Selon ses partisans, il s'agirait d'une tentative de lui faire perdre sur son poste après une série de déclarations sur la nécessité de réformes sociales. Les enquêteurs se focalisent sur des dépenses de 6 millions de naira, 17 millions d'euros pour acheter des voitures de luxe, affréter des avions, payer des factures de téléphone et d'internet ainsi que d'autres frais personnels. Le conseil de l'émirat de Kano a démenti toutes ces accusations.
Deux djihadistes ont été tués hier par les forces de l'ordre à Sidi Bouzid, dans le centre de la Tunisie, lors d'une opération antiterroriste, a indiqué le porte-parole de la garde nationale, Khalifa Chibani. Il s'agit de deux éléments terroristes dont le, probablement étranger, était un dirigeant de la phalange Ogba Ibn Nafa, en lien avec Acmi, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la garde nationale.
Le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed a limogé dimanche soir les ministres contestés des finances et de l'éducation. M. Chahed a relevé de leurs fonctions Lamia Zerbi, ministre des finances, et Neji Jaloul, le ministre de l'éducation, a dit cette source sans plus de précision. Mme Zerbi a récemment été au cœur d'une polémique sur la dépréciation de la monnaie nationale, tandis que le départ de M. Jaloul est réclamé avec insistance depuis plusieurs mois par un syndicat.
La campagne électorale pour les législatives du 4 mai en Algérie a pris fin hier à minuit, un scrutin qui ne devrait ni bouleverser l'ordre politique ni atténuer la crise économique dont le principal enjeu sera la participation. Quelques 23 millions d'électeurs sont appelés à choisir parmi 12 000 candidats en lice pour les 462 sièges de l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement, et un mandat de 5 ans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Donald Trump intensifie ses contacts avec les alliés asiatiques des États-Unis en rapport avec le dossier nord-coréen. Les précisions de Timothée Donagmaï.
Le chef de l'exécutif américain a eu, au cours du week-end, des entretiens téléphoniques séparés avec les dirigeants des Philippines, de Thaïlande et de Singapour, des entretiens qui interviennent après le récent tir de missile par la Corée du Nord. Selon Reince Priebus, secrétaire général de la Maison-Blanche, les États-Unis ont besoin de la coopération à un certain niveau avec autant de partenaires que possible dans la région de façon à être préparés et sur la même page. Le président Donald Trump a averti qu'un conflit majeur est possible avec la Corée du Nord et qu'il ne serait pas content si ce pays menait un autre essai nucléaire. À la question de savoir si cela signifiait qu'il est prêt à mener une action militaire contre Pyongyang, le chef de l'exécutif américain a répondu « Je ne sais pas, nous verrons ». « Nous avons une situation que nous ne pouvons laisser se prolonger », a-t-il déclaré dans une interview à la chaîne CBS.
La Maison-Blanche a défendu par ailleurs hier l'invitation adressée par le président Donald Trump à son homologue philippin Rodrigo Duterte pour une visite à Washington. Elle se justifie, cette invitation, disent les officiels américains, par la nécessité de renforcer l'alliance asiatique face à la menace militaire croissante de la Corée du Nord. M. Duterte est critiqué par de nombreuses capitales étrangères pour la guerre sanglante qu'il a lancée contre les trafiquants de drogue aux Philippines.
En Turquie, les médias rapportent que le propriétaire d'une chaîne de télévision en persan a été tué par balle à Istanbul, en même temps qu'un autre homme, ce samedi soir, que Saïd Kariman de Jem TV a été abattu. Sa station et d'autres comme elle ont été critiquées par l'Iran qui les accuse d'essayer de promouvoir la culture occidentale dans la République islamique.
Toujours en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré hier que son gouvernement était profondément attristé par des images de télévision montrant des forces militaires américaines opérant aux côtés de combattants kurdes syriens qu'Ankara qualifie de terroristes. Pour Washington, ces combattants sont la force la plus efficace contre les djihadistes du groupe État islamique. La semaine dernière, les forces turques avaient lancé des raids aériens contre la force IPJ, la considérant comme la filiale syrienne du PKK qui se bat depuis 3 décennies contre Ankara pour le contrôle du sud-est turc.
Et au Venezuela, l'opposition qui célèbre lundi le premier mois de mobilisation contre le président Nicolas Maduro à la faveur du 1er mai.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
Le secteur touristique est à nouveau porteur en Côte d'Ivoire. Après les difficiles périodes de la crise post-électorale de 2010-2011 et de l'attentat djihadiste dans la station balnéaire de Grand Bassam en 2016. C'est le directeur de l'Office ivoirien du tourisme, Jean-Marie Sommet, qui le dit. Les derniers chiffres pour 2016 sont à 7,5% de contribution au PIB. L'Office du tourisme organise depuis vendredi dernier jusqu'à ce lundi à Abidjan un salon sur le thème « Le tourisme durable ». Un engagement nécessaire pour l'Afrique afin d'attirer plus de touristes dans ce pays. Côte d'Ivoire toujours, la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés appelle à des impositions fiscales foncières moins lourdes, surtout lorsque les clés ne sont pas encore remises aux acquéreurs des maisons. L'instance a fait part de cette demande lors d'une récente rencontre avec la directrice du cadastre, Madame Adakoua Kouamé, a toutefois précisé que les promoteurs et constructeurs immobiliers ivoiriens bénéficient déjà d'une exonération fiscale au moment de l'acquisition du terrain ou d'un bien pour 3 années. Le Mozambique, secoué par le scandale des dettes cachées, a finalement décidé de légaliser ses dettes face aux critiques du FMI et des bailleurs de fonds. Le Parlement vient d'approuver les comptes publics de l'exercice 2015, année où ont été contractés ces emprunts dissimulés de 2 milliards de dollars, levés pour pouvoir acheter secrètement de l'armement. Les 3/4 de cette somme, enfouie dans les comptes de 2 entreprises publiques, se sont volatilisées. Et voilà, merci.
À présent, les sports avec Élisée Ompati. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Football, CHAN 2018, Madagascar et Maurice ont validé leur billet pour le second tour.
Après avoir battu le Malawi 1-0 à l'aller, Madagascar s'est imposé sur le même score au retour au moment où l'île Maurice décrochait le match nul 1-1 aux Seychelles après sa victoire 2-1 à l'aller. Pour le deuxième tour, Madagascar va rencontrer le Mozambique et l'île Maurice jouera l'Angola.
Un second tour qui verra aussi le Soudan du Sud.
Après sa victoire à l'aller sur la pelouse de la Somalie 2-1, les Soudanais l'ont confirmé en s'imposant 2-0 à domicile lors du match retour. Ils rencontreront l'Ouganda au deuxième tour prévu au mois de juillet.
Au Bénin, la saison sportive vient de prendre fin avec la finale du championnat.
Oui, Idrissa, et ce sont les Buffles du Bogou qui sont sortis vainqueurs grâce à leur succès de 3-1 devant l'association sportive de la vallée de Lomé au stade municipal de Parakou. Une victoire qu'apprécie l'entraîneur principal des Buffles, Idrissou Moutari.
Gagner une coupe, c'est pas donné à tout le monde. Et le travail qui a été fait, on a été récompensé. Je regrette un peu quelque chose. Mais l'essentiel, c'est de gagner la coupe. On n'a pas pu gagner la coupe avec la manière dont on voulait. Et l'équipe en face n'a pas démérité non plus. Mais voilà, comme on dit souvent, la chance va toujours au meilleur.
Pour le directeur des compétitions de la Fédération béninoise de football, l'objectif, c'est de faire rouler le ballon. Quentin Didavi.
C'est très heureux que le championnat commence sur des chapeaux de roue et finissent en liesse et en joie, comme vous l'avez constaté avec moi ici ce soir. Il y a eu trop de polémiques, mais j'ai essayé de tenir. Les gens se demandaient, est-ce que ce n'était pas un tournoi de trop? Moi, j'avais mon objectif. Parce que mon problème, c'est quoi? Lorsqu'il y a crise à la fédération, lorsque les acteurs de football ne veulent plus se parler entre eux, il ne faudra pas que nous tombions sur le ballon. Il ne faudra pas que nous empêchions le ballon de rouler. Parce que c'est peut-être dès que le ballon roule que les solutions viennent.
Football toujours, mais de sable avec le mondial de beach soccer. Le Sénégal qualifié pour le second tour et le Nigeria y est presque.
Fort d'une deuxième victoire par 9-10-1 face aux Bahamas, le Sénégal a validé son billet pour les quarts de finale. Vainqueur du Mexique en prolongation 5-4, le Nigeria pourrait le suivre en cas de victoire pour son dernier match contre l'Iran.
Cyclisme, l'Algérien Islam Mansouri remporte le Tour du Sénégal 2017.
Mansouri, qui avait pris le maillot jaune la veille lors de la 7e étape, ne l'a pas lâché lors de l'ultime course, un critérium de 91 km dans Dakar, la capitale sénégalaise. Au général, Mansouri devance le Français Médéric Klein et l'Allemand Lucas Castensen. Du basketball à présent, la NBA, championnat professionnel nord-américain de l'épreuve, et les play-offs avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Conférence Ouest à Los Angeles, Utah a battu les Clippers 104-91, Utah vainqueur, 4 victoires à 3, est qualifié pour le deuxième tour. Conférence Est, deuxième tour à Boston. Boston a battu Washington 123 à 111. Boston mène une victoire à 0.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Suite de notre série de reportages sur la situation humanitaire autour du lac Tchad, parlons ce matin des réfugiés nigérians qui ont fui Boko Haram pour se réfugier au Tchad. Beaucoup sont des pêcheurs qui tentent de poursuivre leurs activités sur le lac. Nicolas Pinault, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Tchad, les a rencontrés. Voici son reportage.
Au petit matin, les bords du lac Tchad ne sont pas silencieux, au contraire. Dans le village de Tagal, on s'active pour nettoyer les poissons attrapés pendant la nuit. Les pêcheurs des réfugiés nigérians tentent de mener une existence similaire à leur vie d'avant, avant les attaques de Boko Haram. Okacha Seydou, 14 ans, originaire de Dorambaga, village nigérian attaqué par les djihadistes en janvier 2015.
Ma vie d'avant me manque. Je suis un pêcheur et la vie ici n'est pas facile. J'ai des amis qui sont restés au Nigeria, ils me manquent.
Les réfugiés nigérians cohabitent pacifiquement dans ce village de Tagal, où les habitants tchadiens leur louent les bateaux et les filets nécessaires pour pêcher. Une location qui coûte cher, puisqu'en moyenne, il faut reverser un tiers de la pêche quotidienne aux propriétaires du bateau. Mohamed Michael est un pêcheur nigérian.
On paie pour tout, pour aller pêcher, pour le filet, pour le bateau. C'est dur. Quand les conditions et la paix seront revenues, on rentrera au Nigeria.
Ce matin-là, sur sa pirogue, on croise aussi un colosse, Abakar Maiga. Avec son débardeur jaune, ce Malien originaire de Gao explique qu'il a quitté son pays depuis les années 90 pour exercer son activité de pêcheur.
Tout le monde sait pourquoi nous sommes là, c'est à cause de Boko Haram. Je suis un pêcheur au Mali, je ne pouvais pas pratiquer la pêche. Donc je suis venu ici, je n'ai pas d'autre source, je ne vis que pour ça.
Depuis les premiers attentats de Boko Haram en territoire tchadien à l'automne 2015, la sécurité s'est grandement améliorée dans la zone du lac Tchad et les habitants de Tagal savourent ce retour au calme. On écoute l'un d'entre eux sur VOA Afrique. Ali Mborou.
Avant 2015, on avait un peu peur, mais maintenant, Boko Haram est repoussé jusqu'au niveau des frontières. Donc maintenant, il n'y a rien. On n'a pas peur, on dort bien la nuit.
Il est déjà 10h du matin, ce jour-là à Tagal. Les pêcheurs nigérians prennent leur repas avant d'aller dormir. Une nouvelle nuit blanche à pêcher les attend en fin d'après-midi sur le lac Tchad. Nicolas Pinault, Tagal, VOA Afrique.
Les réfugiés rwandais installés au Congo-Brazzaville ne bénéficieront plus de ce statut dès le 31 décembre 2017. Les gouvernements du Congo et du Rwanda, en partenariat avec le HCR, travaillent sur cette échéance. Mais dans la communauté des réfugiés rwandais, souligne notre correspondant Gwela Ngoussou, la majorité des réfugiés ne veut pas de cette mesure qui les incite à rentrer et déplore qu'on continue de commémorer l'anniversaire du génocide des Tutsis et pas celui, dit l'un d'entre eux, des Hutus.
Vous êtes sans ignorer qu'actuellement, on est en train de célébrer le génocide pour la 23e fois. Et c'est le génocide des Tutsis. À quel moment est-ce qu'on va célébrer le génocide des Hutus? Et donc, les réfugiés ont peur d'aller dans un pays où ils n'ont pas le droit.
Ces propos d'un jeune réfugié rwandais résument l'angoisse et les dépits qui suscitent au niveau des réfugiés rwandais le fait d'entendre qu'ils perdraient, à partir du 31 décembre 2017, leur statut. Le HCR l'a confirmé et y travaille même déjà. Mohamed Nafian est le chef de bureau du HCR à Bétou, au nord du Congo, où on compte quelques 1979 réfugiés rwandais.
Cette année surtout, nous sommes très sûrs, il y a une clause de cessation des réfugiés rwandais qui va prendre effet à partir du 1er janvier 2018. C'est-à-dire d'ici le 31 décembre 2017, les Rwandais n'auront plus le statut de réfugié, soit le rapatriement, que le HCR pourrait faciliter.
À Brazzaville, les réfugiés vivent cela comme un harcèlement. L'étudiant Patrick Mataboro n'en veut même pas en entendre parler.
Vous voyez que les réfugiés se trouvent dans des situations inconfortables à cause de ce qui se trouve, de ce que le Rwandais est en train de faire. Donc, qu'il affiche la paix aux réfugiés rwandais, qu'il laisse les réfugiés rwandais vivre en beauté, dans leur sécurité. Donc, c'est ça ce qu'on demande.
Marie-Claire Nyiramahoro revient sur le calvaire vécu pendant la fuite du génocide en 1996.
Nous avons peur de retourner chez nous parce que le pays que nous avons fui n'a toujours pas organisé de dialogue. Pendant notre fuite, nous avons vu dans les forêts de RDC comment les réfugiés rwandais, les Hutus en majorité, ont été pourchassés et massacrés par le FPR. Malgré tout ce qu'ils nous ont fait subir, ceux-là qui nous ont tués nous demandent aujourd'hui de rentrer au pays.
Luamba Moké, président de la DUC, une ONG locale, appelle le Congo et le Rwanda à abandonner ce projet. Dépassé un mois, dit-il, il saisira la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
À la fin de l'année 2017 et au début de 2018, que ce soit effectivement des personnes qui vont devenir des migrants clandestins et en leur qualité de migrants clandestins, ils vont être expulsés. Voilà, nous craignons cela. Et en ce moment, nous allons saisir la Commission africaine des droits des peuples pour que la Commission puisse prendre autorité sur cette question-là.
Docteur Eric Ndayishimiye, un autre réfugié rwandais, refute ce qui se dit dans les rues de Brazzaville, que les réfugiés rwandais se sont enrichis ici et ne veulent plus rentrer chez eux.
Même ceux qui ont ces moyens-là ne veulent pas rentrer. Aujourd'hui, nous n'avons pas de cartes pour déposer cet argent en banque. On dit vos cartes ne sont pas acceptées. Pensez-vous que nous sommes vraiment... cette situation nous plaît? Non, pas du tout.
En tout cas, les jours s'égrènent, les deux gouvernements et le HCR ont en main leur agenda. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Au Burkina Faso, l'opposition politique sous la conduite de son chef de file a fait sa première grande sortie publique pendant le week-end avec l'organisation d'un meeting samedi à la maison du peuple de Ouagadougou. D'anciens opposants qui ont chassé Blaise Compaoré du pouvoir et de nouveaux opposants qui étaient proches de l'ancien président se retrouvent tous autour d'une plateforme commune. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
C'est dans une maison du peuple, pleine à craquer et surchauffée par une ambiance de slogans et de vuvuzela, que l'opposition politique a présenté sa plateforme. À la question, cette plateforme propose plus qu'elle ne proteste. Voilà ce qu'a répondu Gilbert Ouédraogo, le président de l'ADF-RDA.
Le parti au pouvoir, nous lui avons indiqué des voies à suivre pour ne pas subir la colère du peuple. S'il suit ces voies, le peuple sera heureux parce que c'est la résolution des préoccupations du peuple. Et ils ont été élus pour ça. Aujourd'hui, la vie est chère. Aujourd'hui, il y a l'insécurité. Aujourd'hui, les étudiants ont des difficultés au niveau social, à tous les niveaux. Quand on regarde dans la vie nationale, même la presse a des difficultés.
Cette plateforme pourrait être le programme de l'opposition unie aux prochaines échéances électorales, au cas où, a affirmé Nathanaël Ouédraogo, le secrétaire général de l'UPC, Union pour le progrès et le changement.
La plateforme, toute l'opposition est d'accord là-dessus. Donc soit le gouvernement actuel et le président Roch le met en exécution, ou ceux qui l'ont pondu vont le mettre en exécution. C'est une évidence. Le MPP ne veut pas la colère du peuple. Qu'il fasse quoi? Qu'il réponde aux attentes et aux aspirations de ce peuple. C'est tout. Et le conseil est bien avisé.
Après un long moment sans organiser une activité publique, l'opposition burkinabé entend désormais aller à l'offensive. Et voilà comment son chef de file, Zéphirin Diabaté, décline l'attitude à tenir.
Au MPP, nous disons, en tout cas que sous ma direction, ils n'auront jamais une opposition gentille, une opposition qui dort, pas jamais, une opposition canine, qui les rappellera tous les matins que notre peuple a faim, que nos jeunes sont au chômage, que l'argent ne circule pas. Nous sommes obligés d'être d'accord avec leur président de l'Assemblée nationale. Et en effet, à ce propos, nous tous avons dit que si le Premier ministre revient l'an prochain pour son discours sur l'état de la nation et ne nous dit pas où sont rentrés les 18 milliards, non seulement l'hémicycle sera étroit pour lui, mais la ville de Ouagadougou sera étroit pour l'ensemble de son gouvernement. Préparez-vous et attendez le mot d'ordre.
Zoumana Gounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Mali, le collectif des enseignants du Nord est en grève illimitée depuis le 6 février dernier, ce qui s'est traduit par la fermeture de toutes les écoles publiques dans la région. Malgré les nombreuses démarches entreprises par les responsables de l'éducation et de la société civile au niveau local, les syndicats ne fléchissent pas et c'est le désarroi chez les candidats aux différents examens. Notre correspondant à Gao, Boubacar Touré, a tendu son micro à certains candidats et à des parents d'élèves. Voici leur réaction.
L'année scolaire 2016-2017 a été fortement perturbée dans la région. Le collectif des enseignants du Nord est en grève illimitée depuis le 6 février dernier. Et pourtant, les examens sont annoncés pour très bientôt. Voici la réaction de quelques personnes interrogées.
J'étais au Moro, Sanébé, classe Ndemane. Le gouvernement n'a qu'à trouver une solution pour ça, pour que les enseignants viennent nous enseigner. Sinon, le DEF, là, ça sera très difficile. Les professeurs qui sont en grève, je le dis seulement de faire tout pour qu'ils viennent donner un peu de coup, même si le gouvernement ne les a pas payés.
Ahimir Daouda Mega, IFM de Gao. Je laisse vraiment un appel à l'autorité compétente, vraiment de faire tout pour qu'ils nous aident vraiment à surmonter vraiment ces problèmes.
Mohamed Aboubakar Touré, lycée Yana Mega, termination sociale. Nous, quand même, on n'est pas prêts. Je veux que le gouvernement repousse les dates des mois ou bien de deux mois.
Déjà, Mohamed, je suis candidate au bac, juste pour les enseignants, quoi. Si le gouvernement nous aimait comme ils le disent, ils allaient répondre aux enseignants. Le gouvernement n'a rien à voir avec ça. Leurs enfants ne sont pas au nord. Qu'on fasse tout pour sauver l'année, puisqu'on ne veut pas d'année blanche vraiment.
Moi, je me nomme Ali Abdourahman Maïga, école fondamentale de Sanaïbé. Il y a beaucoup de syndicats. Les magistrats se gèrent, les hôpitaux se gèrent, mais sans éducation, qu'est-ce que c'est qu'un État? Les Mali de demain, c'est nous. Et si on n'étudie pas, l'État n'a qu'à chercher une solution.
Je m'appelle Daouda Meïga. Nous, nous sommes les parents d'élèves. À ce titre, nous sommes vraiment confiés et inquiets. Les enfants à Gao n'ont fait que 3 mois de cours. Et on leur demande de faire des examens. Quel examen pourront-ils faire dans de telles conditions? L'État veut sacrifier nos enfants ou quoi? Quant aux enseignants, que l'on comprenne que ce sont les enfants à nous tous.
En réalité, l'école s'est confiée à nous qui sommes à Gao. Hein. Est-ce qu'il y a un enseignant qui peut dire qu'il n'a pas d'enfants à l'école?
Mohamed Ibrahim Touré. On peut bien sauver l'année scolaire. Si on décale, c'est une bonne chose parce que là, ça permet de mettre le paquet. Moi, je crois que c'est bien possible.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntu sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Girl, I'll be a pickle mama. I would never make a
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Daniel Brown pour la mise en onde et Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Siludia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.